On n'avait pas dit qu'on viendrait avec un épisode sur Andorre à la base.
Oh, c'est vrai. Mais tu sais que, un peu la honte, mais j'ai toujours pas vu la fin. Alors que j'ai bien aimé, en fait, moi le rythme, je suis désolée, mais le rythme un épisode par semaine, ça me réussit pas du tout. Ah. En fait, il y a des séries où ça s'y prête bien, tu vois, genre Last of Us, on va le mentionner, ça s'y prête très bien. Et puis la plupart, j'y arrive pas.
Ouais, bon, peut-être pour plus tard, on verra, ou pas.
Vaut mieux rien promettre. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy, servez-vous une tasse de thé, café ou encore un chocolat chaud, et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et donc pour cet épisode, on revient pas avec un épisode sur une série ou un film, mais c'est le retour des zappings.
Ouais, j'adore les zappings.
Mais oui.
Et pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à préparer.
En partie aussi pour ça, c'est facile à préparer.
Ouais. Nos emplois du temps sont un peu chargés en ce moment, donc c'est vrai que c'était plus compliqué de faire un autre épisode. Mais les zappings, c'est cool,
oui.
C'est chill, c'est sympa.
Oui, alors jusque-là, on faisait un peu des zappings au fil de l'eau, quand on se dit « Ah bah tiens, c'est bon, on a assez de films à discuter, on fait un zapping spécial série ». Là, on a décidé de cette année de changer un petit peu notre formule et d'essayer d'être un peu plus régulier, mais vraiment sans prétention, là, sans préparation, mais pour essayer d'être un peu plus exhaustif en fait sur tout ce qu'on voit chaque mois. Donc on va tenter de faire ça de manière mensuelle ou plus ou moins. Là, ça va être, c'est plutôt un mois et demi puisque c'est tout ce qu'on a vu depuis début janvier. Voilà, jusqu'à mi-février, hein, puisqu'on enregistre mi-février. On verra. Est-ce qu'on les fait tous les mois, tous les deux mois On vous promet rien, comme d'habitude.
C'est une mauvaise idée de promettre.
C'est ça. Mais là, ça va être un épisode bien chargé, hein, parce que depuis début janvier, on a quand même vu plein de choses. Donc,
clair.
Sans plus de préambule, on va pouvoir attaquer avec les films, puisque là, cette fois-ci, contrairement aux derniers zappings, on mélange tout, hein, film, série, cinéma, streaming, on met de tout. Mais on va commencer par les films en salle, puisque c'est ce qui est le plus proche de l'actu que vous allez peut-être pouvoir encore avoir l'occasion de voir au moment où sort cet épisode, si certains sont encore à l'affiche. Je sais qu'il y en a qui sont encore à l'affiche, ça c'est clair.
Oh, les trois quarts.
Ouais,
je pense. Quatre... Bon, bah, le premier, tout sauf un.
Ouais, le premier dont on va parler, tout je crois un, pas ouais. qu'il est encore à l'affiche.
C'est celui-là auquel je pensais, ouais.
C'est le film qu'on allait voir toutes les deux ensemble.
Ouais, ça faisait longtemps.
C'est vrai. Donc, on allait voir Caravage, qui est un film de Michele Placido, un film franco-italien, qui est un biopic sur le peintre Caravage. Et on suit sa carrière, hein, puisque c'est pas toute sa vie, hein, c'est, on va dire, sa vie de peintre. Et voilà, dans un film assez atmosphérique, immersif sur cette Italie un peu des bas-fonds, puisque, et à la fois de la peinture, puisque Caravage, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peintre qui est très, très original, on va dire. C'est pas l'idée qu'on peut se faire d'un peintre du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Il est plus, voilà, c'est plutôt un voyou, on va dire, assez violent. Et donc, on suit un peu toute sa carrière.
Très controversé, surtout par l'Église aussi.
Ouais.
Même si maintenant, on trouve ses œuvres dans toutes les églises.
C'est ça, oui.
À l'époque, c'était assez...
Ça aborde pas mal cette question-là, effectivement, du rapport avec l'Église, à la fois la fascination pour ses œuvres et en même temps le côté un peu sulfureux. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Eh ben, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, surtout la reconstitution de l'Italie. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que les paysages étaient très beaux. J'ai aimé en savoir plus sur lui parce que c'est vrai que quand je suis partie à Rome, j'ai fait la tournée des églises exprès pour voir ses œuvres. Donc, la mise en contexte, quand on voit justement la manière dont il met en scène ses œuvres et qui va peindre, même si on le voit pas peindre, c'est une petite déception, mais qui va peindre, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé. J'ai un seul défaut, et on en avait discuté ensemble, et je sais que t'as le même, c'est le rythme, qui pour moi met pas du tout en valeur sa vie. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus linéaire. Là, on n'arrête pas d'avoir des flashbacks passés, présents, milieux. Enfin, c'est trop déstructuré, et je trouve que ouais, ça met pas en valeur... sa vie qui est très romanesque et hyper captivante, et j'aurais préféré quelque chose de plus linéaire où on sent la tension qui monte au fur et à mesure.
Ouais, parce que pour rendre presque ça encore plus captivant, enfin plus romanesque, ils ont essayé de faire... en fait, on suit un inspecteur un peu, en fait, qui est incarné par Louis Garrel, qui enquête, en fait, sur Caravage. C'est ça, hein ?
Oui, c'est
ça. Donc,
et
via son enquête, on a... en suivant Caravage en parallèle, tout est dans le désordre, en fait, un peu. Enfin, on a des... C'est pas linéaire, on va dans le futur, enfin, dans le futur par rapport à certaines scènes qu'on voit, dans le passé, enfin, bref, c'est, tout n'est pas dans l'ordre. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi que c'était pas le choix le plus judicieux, je trouvais, pour suivre tout ça. Mais j'ai adoré visuellement aussi. Enfin, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là, je trouvais ça... très beau. Il y a certains plans, surtout certaines scènes de construction de tableaux qui me restent vraiment en tête. Mais voilà, en tant qu'amatrice, notamment de vidéos ASMR, on voit les gens peindre, c'est très spécifique. Mais j'adore ça, voir les gens peindre et on ne voit pas tant que ça. Et c'est ce que j'espère.
C'est peut-être trop dur à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut savoir quand même...
Je me souviens d'un film qui pourtant ne m'avait pas tant plu que ça, c'est Portrait d'une jeune fille en feu. Et où on voyait beaucoup la peintre qui était incarnée par Noémie Merlant faire son tableau avec vraiment, et c'est j'adore, c'était vraiment, autant le film en lui-même il m'a pas passionnée, mais ces scènes là je les ai trouvées super, quoi. Donc c'est possible.
D'accord, bon, tant pis, mais ça reste quand même un beau film qu'on a toutes les deux aimé.
Ouais.
Quand on est sortis, ouais,
carrément. Une bonne expérience,
c'est cool. Mais en tout cas, ouais, il n'est plus en salle, donc peut-être quand il sera sur une plateforme, s'il apparaît un jour.
Ouais. Contrairement à l'autre film qu'on a vu toutes les deux, Babylone, qui lui est encore en salle, ça c'est sûr.
Oui, bah, il va rester un petit moment, je pense.
Je pense, ouais. De Damien Chazelle, son retour après La La Land.
Oui.
Mais avec un film qui n'a pas grand-chose à voir avec La La Land. Hein. Moi,
Ah, pas du tout.
J'avoue que ça m'a un peu déboussolé parce que je suis partie, je ne crois pas que j'avais vu de bande-annonce. Et je suis partie en me disant que, bon, voilà, l'Hollywood des années 20, ça allait être, voilà, assez... ça va pas être La La Land, mais que ça allait quand même être un peu sous la même... Déjà, c'est pas du tout une comédie musicale, alors je m'attendais à une comédie musicale.
Ah ouais ?
Mais je te dis, je savais rien, à part que c'était un film musical, tu
vois. Bah moi, je savais rien non plus, mais je m'attendais pas à une comédie musicale, je sais pas pourquoi.
Ah ouais, bah je m'attendais à que ce soit plus une comédie musicale, mais c'était pas le cas. Et c'est surtout, moi, j'ai été surpris par le côté trash du film. J'étais pas prête. Et du coup, ça m'a vraiment... presque rendu malade à certaines scènes. Donc, et j'avoue que j'ai du mal à me détacher de la nausée que j'ai ressentie à plusieurs moments dans le film, parce qu'il est très long en plus, ce film. Et donc ouais, il y a des plans que j'ai adorés, le film est très bien fait, c'est très virtuose, il y a des plans que j'adorais, il y a des scènes que j'ai adorées, mais dans l'ensemble, je sais que rien que pour ces moments qui étaient too much pour moi, je le reverrais pas, quoi. Donc voilà pour Babylone.
Ouais, alors que moi, c'est pas du tout, enfin, ça m'a vraiment pas perturbée. J'ai un moment où j'ai tourné la tête, effectivement, parce que, bon, Laura, sans spoiler, Laura, j'ai pas pu. J'ai vraiment tourné la tête, j'ai pas regardé. Mais tout le reste, y a vraiment rien du tout qui m'a dérangée. Moi, ça m'a pas perturbée, ce côté trash. Et j'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. J'ai pas vu les 3 heures passer, alors que j'ai toujours beaucoup de mal à rester devant un film qui est très long. Mais là, j'étais captivée, que ce soit par, effectivement, la composition des plans, les images, le jeu d'acteur que j'ai trouvé vraiment très, très bien. J'ai adoré la musique, le changement de rythme entre des moments comiques un peu burlesques, des moments tragiques, les moments euphoriques et ceux avec des silences très pesants. Enfin, vraiment, pour moi, c'était du grand cinéma et j'étais hyper contente d'avoir payé ma place pour ça et je sais que je le reverrai. Et notamment parce que je pense que ça peut plaire à Thibaut et que j'aimerais bien lui montrer. Il a dû 3 heures au cinéma, c'est trop pour lui, mais je me dis à la maison, ça devrait mieux passer. Et ouais, moi j'ai vraiment vraiment adoré, c'était un coup de cœur.
Ouais, bah moi j'ai des scènes qui sont coup de cœur, notamment le deuxième grand tableau du film que j'ai vraiment complètement. Enfin, j'ai trouvé ça, j'étais à fond, j'avais la banane en regardant ce passage, quoi. Après, ouais, j'ai trouvé ça un peu lourd. Après, je pense que c'est le style de Damien Chazelle qui me...
Ouais.
Qui est hyper... Enfin, c'est que des références enchaînées, en fait, au cinéma. Donc, c'est chouette, hein, en tant que cinéphile, enfin, de voir un truc de cinéphile, même si j'ai pas toutes les références, loin de là. Mais c'est un peu... Enfin, j'ai eu du mal à voir ce que ça apportait de plus, en fait, au niveau du fond, du message. Donc, voilà, les références à Chantons sous la pluie étaient un peu trop, à mon goût. Mais après, c'était... Enfin, je comprends, hein, c'est un style, c'est assumé. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est assumé à fond, quoi.
C'est ah pas, oui, c'est ça, ouais.
Voilà, et j'ai adoré la fin. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé la dernière scène, en fait.
Elle est sublime, ouais.
Donc, du coup, ça m'a un peu fini sur une bonne note, finalement. Mais ouais. C'est tout ce qui est pour les films qu'on a vus toutes les deux.
Non, j'allais dire, justement, il y a un troisième film, mais dont on n'a pas mis dans la liste, parce qu'on l'a détesté toutes les deux, c'est Les Banshees d'Inisherin.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Non, mais...
c'est vrai qu'on l'a vu toutes les deux.
J'ai hésité à le mettre et après je me suis dit en fait en vrai on l'a pas aimé, ça sert à rien qu'on
débatte dessus,
il est plus en salle.
Ouais,
si on veut l'exorciste, on a vu.
Il doit être encore à certains endroits.
Ah
mais...
ouais.
Parce qu'il a quand même un gros succès, il est nommé aux Oscars, il a reçu des Golden Globes. Voilà.
Je pense qu'on est passé à côté du message. Voilà, ce film, c'est un film symbolique à lui tout seul. Mais autant Babylone s'est assumé le côté hommage au cinéma, autant là, le côté film conceptuel est trop conceptuel pour moi. Je suis vraiment passée totalement à côté.
Ouais.
Et je comprends pas. Enfin, c'est...
Moi, c'est un peu la même réaction que Babylone, en fait, en plus extrême, hein, pour les Banshees. Mais je comprenais... ce qu'il y avait derrière, je comprenais le message, je trouvais que c'était assez... l'utilisation de toutes tes symboliques et tout, je voyais où ça voulait en venir. Enfin, j'étais pas sûre à un certain moment, mais bon, à la fin, je dis oui, ok, j'ai compris le message. Mais c'est juste que ça m'a mis profondément mal à l'aise, quoi. Et en plus, j'y suis allée, je pense, dans un mood où j'avais pas envie... Je m'attendais à avoir... Encore une fois, c'est aussi, je m'attendais à quelque chose et ça a été... une surprise, mais pas dans le bon sens, quoi. Là, je m'attendais à un film qui allait me faire rire, parce que j'ai déjà vu du même auteur, avec le même duo, en plus, d'acteurs, Colin Farrell et Brendan Gleeson. J'avais vu... comment ça s'appelle ? Meurtre à Bruges, je sais plus quoi, Petit Meurtre à Bruges, un truc comme
bon
ça.
Baiser de Bruges.
Bon Baiser de Bruges, ouais, que j'avais adoré, dans le sens polar, avec humour noir et tout, c'était très drôle. Et j'ai pas retrouvé ce côté-là là, dans les Banshees, c'était juste déprimant en fait. Donc ouais, mais bon, c'est visuellement c'est pas mal, hein.
C'est en Irlande, ça peut que être beau, hein. Mais
c'est l'Irlande, mais c'est l'Irlande des îles complètement désolées, hein. C'est
oui.
C'est pas l'Irlande fun et accueillante, hein.
C'est vrai.
Mais ça a son charme.
Donc, du coup, maintenant, on peut dire, c'est tout pour les films qu'on a vus à deux.
C'est ça.
Alors, moi, j'ai vu un film que je sais que toi, tu ne veux pas aller voir. Et je t'ai fait un long message vocal pour te vanter à quel point je suis tombée en amour de ce film, en te spoilant tout.
Oui, c'est vrai.
Et puis, je me suis dit, tu veux pas aller le voir ? Ok, très bien.
Non, mais j'ai beaucoup apprécié ton message, par contre, et tout ce que tu disais dessus. Je suis là, ok, c'est cool. Je suis pas sûre que ça me donne envie de le voir, parce que je sais exactement quoi m'attendre maintenant, mais... Mais bon, c'est... Non,
j'ai spoilé parce que tu m'as dit jamais j'irai le voir, donc voilà. Mais... Il s'agit de Knock at the Cabin, de M. Night Shyamalan. Moi, je suis une immense fan de sa filmographie. Je me suis rendu compte que j'ai vu quasiment tous ses films, je crois, à une exception ou deux exceptions près. Mais voilà, pour remémorer un peu, resituer le monsieur, Sixième Sens, Incassable, Le Village, Signe, Old, plus récemment.
Ah, moi, j'ai rien vu, en fait, de lui, je crois.
Bon,
je connais beaucoup par contre parce qu'il a souvent des très très bonnes musiques dans ses films.
Oui.
Et elle se retrouve toujours dans mes playlists par contre, ces musiques. Donc je connais par cœur par exemple la musique de The Village, qui est très très bonne.
Ouais. Et j'adore ce qu'il fait. Et donc là, j'y avais été. Mais vraiment, moi, quand je sais que je vais voir un film, comme un peu Babylone, je regarde pas la bande-annonce. Quand un film, j'hésite, je vais la regarder. Mais quand un film, je sais que je vais y aller à 100%, je regarde pas. Parce que je veux pas avoir des attentes qui, au final, tu vois, comme toi avec Babylone, te dire que ça va être une comédie musicale et en fait, ça n'en est pas une, par rapport à la bande-annonce. Je préfère partir avec vraiment zéro a priori, avec juste le titre, et on y va. Et en fait, j'ai eu bien fait parce qu'en regardant la bande-annonce après coup, je me suis dit, mais ils sont en train de gâcher ce film avec cette bande-annonce, ils spoilent tout, c'est n'importe quoi. Mais voilà, pour juste raconter un petit peu, situer le contexte, on démarre le film avec dans une cabane, avec un couple, dont Jonathan Groff, que j'adore, et leur petite fille qu'ils ont adoptée, puisque c'est un couple homosexuel. Et la petite fille est dehors dans la forêt, et un monsieur arrive, grand acteur, hein, ce monsieur, puisqu'il s'agit de...
Dave Bautista.
Exactement. Que moi je connaissais grâce au Gardien de la Galaxie, mais également grâce à Glass Onion récemment.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Et donc je pense qu'il commence à faire son trou un petit peu là au cinéma et c'est cool. Et donc il arrive et commence à discuter avec la petite fille.
Aussi, pardon. Il était dans Dune aussi.
Ah oui, c'est vrai. Et donc il commence à discuter avec la petite fille et en fait tout ce passage est hyper angoissant parce que ça se joue beaucoup avec des très gros plans, avec des contre-plongées sur ce monsieur. C'est comme si t'étais la petite fille. Et donc, t'es hyper impressionnée. Et tu sais pas pourquoi il est là, est-ce qu'il veut, et est-ce qu'il va vouloir attaquer la petite fille, la kidnapper, être gentil, et annoncer quelque chose. Quand on voit pas la bande-annonce, on démarre comme ça. Et du coup, on est vraiment scotché sur notre chaise, et on n'arrête pas de se demander ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Donc, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, allez le voir ce film, parce que je le conseille vraiment. J'ai trouvé qu'il était hyper bien réalisé. La musique est top, l'histoire est top. La fin, de ce que j'ai lu dans les critiques, beaucoup de gens sont déçus. Moi, comme j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ça, j'aurais préféré une autre fin, c'est clair. Mais je me dis, en fait, il a quand même réussi à me surprendre et à m'amener à un endroit où je ne pensais pas aller. Vraiment, pour connaître un peu sa filmographie, je ne m'attendais à tout sauf à ça. Et du coup, ça a été la surprise. Et j'étais à côté, je fais « Ah bah, ah bon ? Ah bah ok. » Et vraiment, plein de gens dans la salle ont eu cette réaction de « Oh !» C'était et certains ont rigolé, d'autres ont dit mais c'est nul, certains ont dit mais c'est génial. Enfin, il y a quand même une fin marquante, on va dire. Et en connaissant sa filmographie encore une fois, hein, si on le connaît pas, c'est un peu plus perché. Mais bon, bref, je m'arrêterai là. Mais en tout cas, j'ai adoré ce film et je le conseille vraiment. Après, voilà, comme je disais à Marjo, c'est quand même une ambiance assez angoissante, assez pesante. C'est pas gore. Hein. Quand on voit du sang, on voit très peu, on voit pas de coupures, etc. On voit du sang sur des chemises, par exemple, etc. C'est pas montré à l'écran. Mais c'est vraiment assez angoissant, j'avais le cœur serré tout le film. Donc il faut que ce genre de film vous plaise, et si c'est le cas, foncez.
Ouais, moi c'est vraiment parce que je savais que ça allait être angoissant, que c'était un huis clos oppressant, que je voulais pas le voir, parce que en bossant maintenant à la pénitentiaire, j'ai pas forcément envie de m'imposer ça
m'étonnes, je comprends.
Sur mes trucs loisirs, quoi. Alors moi, dans les films que j'ai vus et que j'ai beaucoup aimé, il y a Le Chapeauté 2. Qui est un film qui est sorti à la fin de l'année dernière, en 2022, mais qui est toujours à l'affiche à beaucoup d'endroits. Il est beaucoup distribué parce que je pense qu'il a un bon succès. Et en plus, il est nommé là, pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est amplement mérité parce que j'ai vraiment adoré ce film. Alors déjà, on peut aller voir ce film sans avoir vu Le Chapeauté précédent. Parce que c'est mon cas, j'ai pas vu Le Chapeauté précédent et ça ne m'a absolument pas gênée. C'est pas non plus indispensable d'avoir vu Shrek ou tous les épisodes de Shrek parce que les mentions à Shrek sont vraiment très 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 minimes. C'est un film, c'est une histoire qui se tient en elle-même et j'ai tout adoré dans ce film. J'ai adoré visuellement déjà, c'est une animation qui est très sympa avec des plans un peu à la Spider-Man Into the Spider-Verse en fait, avec des mélanges 2D, 3D. Qui sont avec des couleurs très éclatantes et c'est une très très belle animation. L'histoire est très très bien. C'est un film d'animation pour les enfants, mais avec des sujets assez adultes et genre le méchant de cette histoire, qui est le grand méchant loup, est terrifiant. C'est vraiment un méchant très 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 réussi. Donc voilà, il faut un méchant très réussi hein, pour une bonne histoire. Donc gros point fort. Et ça aborde, ouais, ça apporte plein de thématiques très très fortes, que ce soit oui la famille, mais surtout ouais, la peur de mourir. Ouais, il y a des sujets assez puissants. Et tout ça avec bah, l'ambiance des mondes de Shrek, plein de références à différents contes. On a des mentions à Boucle d'Or, à plein de contes un peu réinventés de manière hyper innovante. Donc Ouais, je le conseille vraiment à fond, autant pour les plus jeunes, pas trop jeunes, parce que, ouais, comme je disais, le méchant fait quand même un peu peur. Ouais, les adultes, même, vous pouvez y aller tout seul, hein, sans enfant, vous allez kiffer quand même. Donc, coup de cœur pour
moi,
chacun des deux.
Moi, j'avais dit, hein, il me tentait beaucoup. Bon, j'ai pas l'occasion. Effectivement, il passe encore pas loin de chez moi, mais souvent, c'est des séances la journée,
ouais,
pas le soir.
Pour les enfants, ouais.
C'est ça. Donc, non, mais je le verrai, hein, l'occasion.
Et je l'ai vu en VF, et comme dans Shrek, hein, dans la licence Shrek, la VF est très, très bonne. On a vraiment un très bon travail sur le doublage. Donc, c'est sympa aussi et à souligner.
Ok. Moi, j'ai été voir, alors ça va être très, très rapide pour en parler, j'ai été voir Tirailleurs. Et j'ai pas trop accroché, donc je vais pas m'étendre sur le sujet.
C'est celui avec Omar Sy, c'est ça ?
Ouais, exactement, c'est le film avec Omar Sy. Je vais passer pour la blonde de service, mais en fait, je ne savais pas ce que c'était des Tirailleurs. Et en fait, je trouve que le film insiste beaucoup sur la relation entre Omar Sy et son fils, mais du coup, pas du tout, pas trop sur le côté historique. Et j'aurais préféré, moi, un petit contexte, ou j'aurais préféré que ça parle plus d'histoire. Enfin, pour comparer, j'ai vu Les Harkis l'année dernière, alors c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes époques, c'est pas, voilà, il y a quand même de grosses différences, mais il y a toujours ce côté du on va chercher dans nos colonies des militaires en leur promettant monts et merveilles, et en fait, voilà. Et en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus axé sur le côté historique et j'ai appris plein de choses. Là, Tirailleurs, je sais pas pourquoi, la relation m'a pas tant ému que ça et il m'a manqué quelque chose et donc j'ai pas trop accroché. Voilà.
Ouais, j'avais juste vu la bande-annonce, je me disais peut-être, mais même la bande-annonce m'avait pas suffi à m'accrocher, même si le sujet est intéressant et important.
C'est important, c'est important en parler,
c'est ça. Hein.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est pas évident, hein, de faire des bons films de guerre. On en a vu d'autres, des bons films de guerre.
Mais... Ouais, on va en parler. Mais c'est vrai que c'est bien qu'ils aient parlé de ce sujet-là, et du coup, c'est top que Omar Sy aille sur les plateaux télé pour en parler, parce qu'effectivement. Effectivement, c'est important de pas oublier. Mais après, peut-être que j'étais pas le public cible, ou peut-être que c'était pas le bon moment pour moi. Parce qu'après, j'ai lu des bonnes critiques quand même. Hein. Il a assez plu aussi, ce film. Donc, voilà.
Alors moi, un film que j'ai vu tout récemment, puisqu'au moment où on enregistre, je l'ai vu hier. Mais ça faisait un moment que je voulais le voir, parce qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais si vous regardez, vous pouvez encore trouver des séances. C'est La famille Asada, un film japonais, alors qui était sorti à la base au Japon en 2020, mais qui sort du coup en 2023 en France, de Ryota Nakano. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Il m'a beaucoup émue. Et aussi beaucoup fait rire, puisque c'est vraiment c'est un film un peu étrange où c'est un film un peu en deux parties, avec deux parties qui sont très distinctes, mais où il y a aussi un personnage, hein, sur tout le film, mais avec pas du tout le même ton. Mais en gros, on suit un jeune gars et sa famille, donc la famille Asada, et lui, il est passionné de photographie, mais c'est un peu un loser, quoi, qui a un peu du mal à trouver sa place, etc. Et puis finalement, c'est à travers la photo et les photos avec sa famille, qui est une famille un peu excentrique. Enfin, ils sont tous un peu excentriques, sauf ton grand frère, qui est très sérieux. Mais du coup, il prend en photo sa famille, et puis voilà, sans dévoiler le reste du film, ça lui permet... De s'assumer et de voilà et en fait le film il y a un tournant un moment vaut mieux être au courant pour savoir si on a envie de le voir parce que c'est quand même assez assez dur, c'est que ça aborde du coup la catastrophe en 2011 du tsunami au Japon, tremblement de terre et tsunami, et du coup ce personnage-là se retrouve à venir aider en tant que bénévole dans les décombres et va en fait ils sont être plusieurs à aller chercher toutes les photos de famille des gens en fait parce que bon c'est des tas de décombres et ils retrouvent au milieu les photos et ils nettoient les photos pour après que les gens viennent les retrouver en fait en se disant que le à la fois pour les personnes disparues, mais aussi pour juste les gens qui ont tout perdu, de retrouver au moins leurs photos de famille. Et en fait, c'est tout un film sur l'importance de la photo, que peut avoir la photo.
Oh, c'est
en
beau.
Fait. Et c'est très, très beau, très, très touchant. Moi, j'ai clairement pleuré à pas mal de moments du film, et pas que dans cette deuxième partie, puisqu'il y a des moments liés plus voilà ce que ça veut dire de prendre des photos de famille qui sont très touchantes aussi. Ça aborde plein de choses. Les personnages sont très très attachants. Enfin, le personnage principal, j'ai trouvé très attachant. Donc voilà, c'est un peu déroutant d'avoir ce changement de ton assez brutal. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et ça finit sur une bonne note assez positive et vraiment sur la résilience, quoi, de se remettre de catastrophes, tout ça. Donc c'est très, un très beau film. Donc je le conseille à fond. Si vous aimez pleurer au cinéma.
Ça me dérange pas de pleurer au cinéma, il me tentait beaucoup. Je crois que c'était Charlie qu'on avait parlé sur le Discord en tout premier. Et je sais plus qui l'avait vu après, pareil, elle a adoré.
Enfin, l'avait vu, je crois aussi.
Ouais, je crois aussi, c'est ça. Et non, il me tentait bien. Après, bon, je pars dans 2 jours en vacances. Je suis pas sûre qu'il soit là quand je revienne. Et il y a Ant-Man qu'il faut quand même que j'aille voir avant de partir, donc ça risque d'être compliqué, mais...
Non, mais ça, c'est un film à rattraper. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément un film à voir absolument au cinéma, même si c'est cool de le voir au cinéma, parce que je suis pas sûre qu'il va être disponible rapidement sur d'autres plateformes. Mais c'est, voilà, c'est un film qui peut se rattraper facilement.
Ok. Bon, très bien. Alors, le dernier film que moi j'ai vu au cinéma, il s'agit d'Astérix et Obélix. Et j'ai hésité avant d'aller le voir, mais alors... Marjo, c'est, hein. Oui. Vraiment, ça a été un jour. Jamais j'irai le voir, un jour. Oh, allez, je vais peut-être aller le voir le lendemain. Non, mais je vais pas aller le voir, en fait, c'est mort. Bref, ça a été très compliqué à la semaine, d'accord ? Parce que j'aime bien Astérix et Obélix de manière générale. Je suis pas une grande passionnée, hyper fan. J'ai les BD, mais je les ai jamais lus. Et j'ai vu tous les films et dessins animés, mais voilà, c'est tout. J'aime bien Guillaume Canet, je trouve sympathique ce monsieur, plutôt bon acteur, ça va, enfin pas non plus, voilà, mais sympa.
Je trouve sympathique ce monsieur, j'aime bien la description de Guillaume Canet, oui, il est sympathique ce monsieur.
Non, mais parce que ça m'a fait de la peine en fait, un peu toutes les critiques, vraiment,
ouais,
vraiment c'était, tu vois que le monde titre l'Empire du Néant, tu vois, je trouve... c'est lourd, enfin il y a du travail quand même derrière, on peut dire qu'on n'aime pas certains points, mais de là à enfoncer comme ça, alors je pense qu'il y a un petit côté politique, et ça a été aussi ma raison pour laquelle je voulais pas du tout y aller le voir au départ, c'est que je voulais pas donner de sous à Pathé, puisque voilà, le film est produit par Pathé, je n'aime pas ce monsieur, lui je le trouve pas du tout très sympathique, et du coup j'avais pas envie de payer pour ça, je me suis dit je vais le télécharger, regarder en streaming, j'en sais rien, mais j'irai pas le voir. Au final, c'est vrai que toute cette négative, enfin toutes ces critiques négatives, je voulais me faire un avis aussi moi-même, me dire ok, voilà, on arrête, tout le monde dit que c'est nul, bah je veux pouvoir le voir et soit dire que ouais, vous avez raison, c'est nul, soit dire bah peut-être pas tant que ça. Après, je voulais plus aller le voir parce que ils m'ont saoulé avec leurs promos. Il y en avait partout, enfin vraiment, ils étaient sur YouTube, dans les émissions de télé sur TF1, enfin ils étaient vraiment partout, donc ça me saoulait un peu. Mais ma maman voulait le voir, donc je ne sais pas dire non à ma maman. Donc je me suis retrouvée au cinéma de Fontainebleau, ça m'a rappelé des souvenirs, pour aller le regarder. Alors, au final, c'est pas le film de l'année du tout, il y a plein de choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais j'ai quand même rigolé, j'ai quand même passé un bon moment, et je trouve que les critiques sont vraiment beaucoup trop dures pour ça. Oui, il y a plein de choses qui vont pas, il y a des blagues... Il y a des blagues qui m'ont pas fait rire, quoi, clairement, parce que c'est pas non plus mon humour. Mais sixième, quand ils m'ont parlé, ils me racontent la blague, madame, dans Astérix, il y avait ça, puis ils te racontent, et en fait, bon, le fait qu'ils, je rigole parce que le fait qu'ils te la racontent et qu'ils sont tout mignons, tout choux, et que ça leur fait rire, c'est leur humour, c'est leur rêve, voilà, eux, les rêves de Axel Zlatan, ils ont kiffé, moi, c'est bon, c'est fini, quoi, je sais même plus qui c'est, enfin. Donc, oui, il y avait des trucs pas drôles, mais, il y avait quand même des trucs sympas, c'était quand même voilà un film, une comédie française, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas le style, mais c'était pas pire que d'autres comédies françaises du même style, quoi. Pour moi, c'était pas pire que Babysitter, que les autres Astérix et Obélix, ah, pas celui d'Alain Chabat, qui est largement au-dessus, on est d'accord, mais que les autres Astérix et Obélix, que Pote à prêter ou je sais pas quoi, enfin, que tous les trucs qui passent, et que d'habitude, ouais, je suis pas très fan non plus.
Mais je pense que c'est le fait que ce soit Astérix, qui ait eu Mission Cléopâtre, qui est complètement... Ouais. Hors catégorie, mais du coup, je pense que tout ce qui est arrivé après souffre de la comparaison, alors qu'effectivement, bon, on remarque, c'est un peu comme... Bon, j'ai jamais vu, moi, tous ces films, hein. J'ai pas vu les Astérix, j'en ai eu un après Mission Cléopâtre, mais tu vois, je pense à, tu vois, genre les Aladdin, là, et ce genre de films, là, qu'ils avaient fait.
Ouais. Ouais.
Enfin, pour moi, je mets un peu tout ça dans le même, dans le même panier. C'est, ça a son public, et des gens qui aiment. Et je trouve que c'est un peu. C'est. J'allais dire pédant, mais oui, c'est un petit peu. C'est pas arrogant le terme, mais je perds le mot. Mais,
oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu. Ça, c'est du cinéma pour vous deux.
C'est populaire, donc c'est.
Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est dommage parce qu'au final, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit moi, j'y suis allée avec mon mari, mes enfants, parce qu'on trouve plus grand chose dans film comédie comme ça, sympa à aller voir, sans non plus que ça parle de cul à tout va. Et voilà, ils ont aimé, et effectivement, il y a son public, et donc je trouve que les critiques sont vraiment trop dures. Moi, il y a deux petits trucs vraiment que j'ai pas trop aimé, c'est le côté, à chaque fois qu'il y a une femme, faut que quelqu'un soit amoureux d'elle ou qu'il y ait une histoire d'amour. Et ça, autant j'aime bien les histoires d'amour, autant là, c'était beaucoup trop. Enfin, clairement, même l'impératrice, il lui trouve quelqu'un, enfin, au bout d'un moment, ça va, stop, quoi. Arrêtez le délire. Et puis, bien sûr, toujours, c'est un mec et une fille, hein. Mais bon, ça, encore, on en est loin, mais vraiment, tu vois, à chaque fois qu'il y a une femme, quelqu'un est amoureux d'elle. Voilà, on l'a réduit que à ça, et ça m'a fortement dérangée. Et le deuxième point, c'est Marion Cotillard, que je trouve une terrible actrice. Je suis désolée, peut-être qu'elle a gagné cet Oscar, oui, effectivement, très bien, mais je sais pas comment on la dirige des fois dans d'autres
qu'est-ce
films.
Qu'est-ce qu'elle joue dans le film, Marion Cotillard ?
Cléopâtre.
Ouais.
Parce que bien sûr,
j'avais entendu
Cléopâtre est blanche. Bah oui, non, mais pas bien sûr. Et encore une fois, tu vois, ça, après, ça, voilà, c'est.
Coup, ouais. c'est... J'ai rien contre Marion Cotillard, mais je suis désolée, non, tu peux pas mettre Marion Cotillard en Cléopâtre. Enfin, ça se fait plus, non. Ce genre de choses, quoi.
Bah non, et en plus, ouais, elle est ridicule. Je suis désolée, mais elle joue très mal, et je sais pas comment. En fait, elle surjoue. Et du coup, comme les autres ne surjouent pas, ça fait bizarre. Tu peux, tout le monde surjoue, prendre tout au second degré et tout, mais là, ça passe pas. Enfin, voilà, bref, j'ai quand même passé un bon moment. C'était juste pour le défendre un petit peu, parce que oui. Je trouve que même s'il a plein de défauts, c'est pas si catastrophique que ça, et il peut plaire, voilà.
Très bien, bon, moi, je pense pas, à part, tomber dessus par hasard avec d'autres gens et se motiver à le regarder, c'est vraiment pas le genre de film que j'irai voir au cinéma, mais je soutiens totalement ta défense. alors moi, dernier film, mais dont je vais pas parler, je vais juste mentionner que j'ai eu la chance de le voir une semaine avant sa sortie, un mois avant sa sortie générale, puisqu'il a été diffusé dans le cadre du festival Télérama. C'est The Fablemans, que j'ai vu donc fin janvier, le nouveau Steven Spielberg tant attendu, qui fait un tabac et qui, pareil, est nominé à tout ce qui peut être nominé, je crois.
Ouais.
Et voilà. Alors moi, j'adore Spielberg. Là, pour le coup, je savais que j'allais, je savais à peu près à quoi m'attendre. Et là, cette fois-ci, j'étais comblée dans mes attentes. Voilà. Si on aime Spielberg, je le conseille. J'ai pas du tout été déçue. Juste ne pas s'attendre à un film merveilleux dans le sens surnaturel. C'est vraiment du Spielberg très réaliste, très 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 autobiographique. C'est vraiment une autobiographie, il a juste changé les noms, mais sinon c'est de la pure autobiographie. Mais ça marche très bien, c'est très bien fait, les acteurs sont excellents, et le message derrière est très touchant, et Spielberg me touche toujours, de toute façon. Donc allez le voir, c'est un très beau moment. 2h30, mais qui passe très très bien.
Non mais ça c'est sûr, j'irai. Il est vraiment sur ma liste, il faisait partie de mon top 5 des films de 2023 que j'allais voir à tout prix.
Donc on en parlera dans le prochain zapping pour comparer nos avis.
Yeah. C'est ça. On peut passer à Netflix ?
Oui, les films qu'on a vus sur Netflix, finalement, on en a vu pas mal aussi.
Ouais, il y en a 3 qu'on a vus en commun.
Ouais. 3 assez différents.
ouais, totalement différents. Et on commence avec The Pale Blue Eye, qui est un film thriller. Oui.
C'est un film, ouais, ouais, gothique.
Non, ouais, si, c'est un peu, ouais.
Oui,
si,
ouais.
Ouais.
Oui, thriller gothique, c'est ça.
Thriller gothique, c'est ça. C'est ça.
Ambiance Edgar Allan Poe avec Edgar Allan Poe.
Oui. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'était ces deux enquêteurs dans une académie caserne. Militaire.
Ouais, c'est ça.
Ouais, une caserne, c'est ça.
Académie militaire.
Qui vont mener une enquête, enfin c'est un inspecteur et un cadet qui va l'aider à mener une enquête, parce qu'il va y avoir au départ un meurtre. L'inspecteur est joué par Christian Bale, et le jeune cadet, en fait, il s'agit d'Edgar Allan Poe, Et il va être interprété par Harry Melling.
Oui.
Que je n'avais pas reconnu du tout. C'est incroyable.
Ben moi, dès que j'avais vu la bande-annonce, je l'avais reconnu et j'étais genre, oh, mais c'est génial. Et parce qu'on l'avait quand même. Donc, Harry Melling, pour ceux qui ne voient pas le nom, il faisait Dudley dans Harry Potter et on l'avait vu plus récemment dans Le Jeu de la Dame. Où il faisait, il était très très bon dans Le Jeu de la Dame, donc j'étais très contente de le revoir dans autre chose, et je l'ai trouvé mais excellent en Edgar Allan Poe. J'ai trouvé vraiment, c'est incroyable, il s'est fait vraiment la tête d'Edgar Allan Poe, Christian Bale toujours excellent aussi, et l'ambiance, moi je l'ai regardé un dimanche après-midi pluvieux sous mon plaid avec un chocolat chaud ou un thé, j'ai adoré l'ambiance hivernale, c'est un film d'hiver quoi, à regarder vraiment avec cette petite enquête, ça fait pas spécialement peur mais c'est un peu l'ambiance quand même, où ça flirte avec le surnaturel à certains moments, avec des petits mystères, des plot twists. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment.
Ouais, moi aussi. Vraiment, c'est l'ambiance moi, qui m'a plu en priorité. Mais j'ai trouvé ça cool. J'ai été surprise par la fin. C'était top.
Ouais, les costumes sont très beaux.
Ouais.
Ouais. Parce qu'après, oui, c'est vrai que l'histoire en elle-même, c'est assez...
Oui,
on a déjà vu ce genre d'intrigue, mais c'est bien mené, quoi. J'ai bien, bien aimé.
Ouais, j'aurais juste aimé le voir au cinéma, je pense, ça aurait rendu mieux que sur une petite télé.
C'est clair, ouais, j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Mais tous les films là, qu'on va citer, là, que j'ai vu, enfin qu'on a vu toutes les deux, en tout cas, sur Netflix...
Oui, alors les deux d'après, non, pas forcément. Ouais. Les deux que moi j'ai vus toutes seules, pas forcément. Mais les deux autres, oui. Ouais.
Puisqu'on a vu aussi en film d'animation Le Monstre des Mers. Alors, moi, je l'ai vu l'année dernière, puisqu'il était sorti il y a quelques mois déjà. Il est aussi nominé aux Oscars du meilleur film d'animation. Ouais. Et moi, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une première fois et une deuxième fois avec mon père à Noël, puisqu'il ne l'avait pas vu la première fois où on l'avait regardé. Et j'ai adoré aussi. J'ai trouvé très... J'étais pris, mais dès le début, j'ai trouvé tellement bon dans l'accroche, dans l'esprit d'aventure et tout. Donc, c'est un peu une ambiance piraterie, chasseur de monstres, quoi. Des pirates chasseurs de monstres, un peu, dans un monde fantastique. Et où, du coup, on suit une petite fille qui est orpheline, qui s'engage... se fait engager dans le plus réputé équipage chasseur de monstres et toute une histoire après c'est clairement adressé au jeune public hein, mais j'ai trouvé ça très bon et c'est vrai que j'ai eu tendance à le comparer un peu parce que je les ai vus pas longtemps d'écart avec Avalonia le dernier Pixar. J'ai préféré Le Monstre des Mers largement Avalonia et qui ça traite en plus des choses un peu similaires même si c'est pas du tout la même intrigue, mais j'ai préféré Le Monstre des Mers.
Oh, je sais pas, j'ai pas forcément de préférence entre les deux. C'est vrai que c'est un peu le même style. J'ai aimé des choses différentes dans l'un et dans l'autre. En fait, dans Le Monstre des Mers, ma seule déception, c'est vrai que c'est le scénario qui est quand même assez cliché, assez facile. Enfin, il est prévisible, hein, on se doute de tout, on devine tout du début à la fin. Mais l'animation est tellement belle que ça t'emporte. C'est vraiment très beau. C'est un mix un peu en plus entre Pirates des Caraïbes et Dragon, on va dire.
Mais dans le style, moi j'étais persuadée que j'ai épluché toute l'équipe technique. Je me suis dit, mais c'est obligé qu'il y ait des gens qui aient travaillé sur Dragon dans ce film. Et non, en fait.
Et non, Vaiana et les nouveaux héros.
Ouais, c'est ça, c'est l'équipe Disney qui fait autre chose. Mais c'est vraiment, pour se donner une idée du style, c'est assez proche de Dragon dans le style. C'est un style DreamWorks plus.
Ouais, c'est ça. Mais meilleure qualité. Je trouve.
Dragon, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, mais alors moi je compare. C'est toujours ça qui me fait tiquer, c'est les cheveux. Tu compares les cheveux.
Ouais, mais c'est les derniers c'est modèles. C'est les derniers modèles d'animation. Dragon, ça commence à remonter un petit peu maintenant, mais c'est ouais. Non, c'est clair que l'eau et les cheveux, c'est impressionnant.
Ouais. Le troisième film qu'on a vu ensemble, effectivement, là, on aurait surkiffé le voir au cinéma. C'est un film de guerre, on en a parlé tout à l'heure, et il s'agit de À l'Ouest, rien de nouveau.
Ouais, une adaptation du roman. Je pense qu'on a tous étudié au moins des extraits de ce roman à l'école. Là, alors j'ai repris le pour regarder un peu l'intrigue du roman et c'est ce que ça suivait vraiment. Non, c'est une adaptation assez libre quand même. Mais dans l'idée, c'est voilà, c'est une Première Guerre mondiale du côté allemand et on suit des jeunes engagés. Voilà, très enthousiastes et qui ont été un peu brainwashés pour
totalement même.
Et du coup, voilà, c'est le choc des tranchées et la vie des tranchées. Et c'est horrible. C'est vraiment, ça décrit à quel point cette guerre était complètement absurde. Et c'est vraiment, ça traite vraiment de la fin de la guerre, en fait, au moment où c'est tellement absurde qu'il faut que ça s'arrête. Et j'ai trouvé ça passionnant, très dur. Très très dur, il y a des passages qui sont... Ça, au cinéma, ça aurait été bien, mais ça aurait été dur aussi quand même. Mais non, j'ai vraiment... Enfin, ça m'a marqué, il y a des scènes que je ne vais pas oublier. Et ouais.
Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça très, très cru, mais très vrai. J'ai bien aimé le côté très pacifiste finalement de ce film, malgré qu'il parle de la guerre. Ça c'était top. Y a la photographie est très belle, il y a des images qui sont sublimes et c'est pour ça que je pense qu'au cinéma ça aurait mieux rendu. En fait, ce qui est sympa, c'est vraiment ce côté où, ok, on est du côté des Allemands, mais on aurait été du côté des Français, ça aurait été exactement pareil et ça se ressent vraiment. Il y a pas c'est pas manichéen, il y a pas les méchants, les gentils. Enfin, voilà, c'est vraiment.
Il y a quand même, on pointe quand même du doigt certains officiers allemands.
Oui.
Notamment un ou deux, enfin bref, qui sont, enfin,
parce que leur ego quoi.
C'est vrai que même quand il y a les négociations avec les Français, il y a une animosité quoi. Mais et tu sais que le fait que les Alliés, que les Français étaient aussi durs à ces moments des négociations, ça amène la Seconde Guerre mondiale quoi. Mais donc tu le sens tout ça quand tu connais un peu l'histoire, mais tu peux pas leur vouloir à tel point c'est
non, très dur mais très bien. Par contre, il est interdit aux moins de 16 ans, j'ai vu, parce que j'ai des élèves qui voulaient en parler, qui l'ont vu, parce que bien évidemment de nos jours tout le monde regarde les films sans les limites d'âge. J'ai des élèves qui l'ont vu et qui voulaient en parler lors de leur oral du brevet, donc j'ai dû checker et j'aurais dit ah bah non, désolé les gars, moins de 16 ans, donc c'est bien que vous l'ayez vu mais n'en parlez pas en oral. Et par contre, en parlant avec les profs d'histoire, en fait c'est une adaptation, j'ai eu une première adaptation de ce film. Oui.
Il y en avait même eu deux, très anciennes, ouais. Et une un peu plus récente.
Et il paraît qu'elle est très très bien, et elle n'est pas interdite aux moins de 16 ans, elle est beaucoup moins hard, beaucoup moins trash, ouais. Et il paraît qu'elle est top, donc voilà.
Ouais. Enfin,
je voulais la mentionner. Alors je vais faire vite pour les deux films que j'ai vus juste après toute seule. C'est des films dans le style totalement différent, c'est pas du tout des films à Oscar, hein, qu'on soit clair. mais j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a un premier film qui vient d'arriver sur Netflix, mais c'est pas une exclusivité de Netflix. Enfin, il était déjà sorti en 2020, alors je suppose au cinéma, mais je ne l'avais pas vu passer. Il s'agit de Deux Cœurs, avec Jacob El-Hadi, que j'aime beaucoup pour les films romantiques dans lesquels il joue. Et c'est une histoire en parallèle. En fait, on suit un immigrant alors cubain, je crois, qui rencontre une hôtesse de l'air, qui tombe amoureux, etc. Et lui, il a une maladie très grave. Il a déjà eu une transplantation des poumons. Et on suit en parallèle, des années plus tard... Jacob El-Hadi, qui est à la fac, qui tombe à... qui est à la fac, tombe amoureux, et son histoire d'amour, enfin voilà, c'est clairement deux histoires d'amour en parallèle, mais bien menées, très mignonnes, on se laisse vraiment bercer, et puis bon, on comprend très rapidement, hein, d'où en plus qu'il va y avoir un lien entre les deux et que ça va se finir mal, que ça va être dramatique. Et effectivement, c'est très triste. C'est tiré d'une histoire vraie et d'un livre que un des personnages, je ne dirais pas lequel, va écrire. Voilà, c'est une très belle histoire, assez triste. J'ai vraiment eu la larme à l'œil à la fin, mais bien réalisée, belle histoire d'amour quand même. Je le conseille. Et puis une fois que vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller checker. L'histoire vraie qu'il y a derrière.
Je pense que je verrai peut-être un jour celui-là. ça me dit bien.
Ouais, je pense qu'il peut te plaire. Le deuxième, pas du tout. moi, le deuxième, j'ai surkiffé, bien évidemment. Il s'agit d'une histoire totalement d'amour, mais alors à 1000% et rien d'autre. Entre Ashton Kutcher et Reese Witherspoon. Alors, autant dire que moi, mon adolescence est ressortie direct. En fait, il s'agit du film Toi chez moi et vice-versa. Et c'est vraiment, alors là, l'histoire d'amour à 100%. Donc, en gros, ils sont tous les deux meilleurs amis. Il y en a un qui vit à New York, un qui vit à Los Angeles. Donc, déjà, j'étais très contente de voir ces deux villes que j'adore. Et ils vont s'échanger les maisons. Elle, parce qu'elle va faire une formation à New York. Et lui, parce qu'il va venir s'occuper de son fils à elle, du coup, à Los Angeles, puisqu'elle est maman célibataire. Et ils vont interférer un peu dans la vie de l'autre. Et la modifier... toujours dans le sens ah ben on fait ça, je fais ça parce que c'est mon meilleur ami, je veux l'aider, voilà, vous voyez un peu le genre. Et puis bien sûr, ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, ça c'est pas une surprise. C'est vraiment le film quand tu fais ton point de croix. Tu mets ça quand tu fais ton point de croix, c'est parfait. C'est mignon. Alors, j'ai lu une critique sur Insta d'une fille qui disait, d'une blogueuse qui disait qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas du tout d'alchimie entre les deux, tout ça. Moi, j'ai trouvé que si. J'ai beaucoup aimé. Ashton Kutcher est toujours aussi beau. Voilà. J'étais vraiment à fond dedans. Bon, je faisais autre chose en même temps, hein. J'étais sous mon plaid, voilà. Enfin, c'est le film cocooning, quoi. C'est pas du tout du grand cinéma. Mais j'ai trouvé que ça faisait un peu les comédies romantiques qui existaient dans les années 90. Et qui maintenant n'existe plus trop, ou parce que c'est un peu trop cliché, etc. Et voilà, donc ça faisait du bien. C'était une petite Madeleine de Proust. C'était sympathique.
Très bien. Ouais, il y avait des bons trucs hein, sur Netflix. Hein,
ce mois-ci. Sur Disney+, j'ai vu quelque chose. Qui va te plaire,
mais oui, je sais pas pourquoi tu l'as toujours pas regardé. En plus, à chaque fois que je regarde sur les... Parce que bon, on tient un jour, on a notre inventaire de tout ce qu'on regarde. À chaque fois, je tombe du coup sur ça, parce que tu l'as mis dès qu'il est sorti. Et je dis, mais oui, il faut que je le garde. Et je sais pas pourquoi, j'oublie toujours.
Donc, il s'agit de Encanto concert live au Hollywood Bowl. Donc, c'est un concert live d'Encanto, comme son titre l'indique, présenté, on le voit 5 minutes, par Lin-Manuel Miranda. donc c'est vraiment... ils reprennent toutes les chansons l'une après les autres, mais à chaque fois avec des mises en scène, avec les interprètes. Alors, pas tous, mais il n'y a que Bruno qui n'y est pas. Et oui, c'est ça, je crois, c'est tout. Et donc ils interprètent leurs chansons, donc habillés un petit peu comme les personnages du film, donc c'est hyper sympa et c'est hyper émouvant. Enfin, j'ai pleuré devant
Dos Loquitas.
Ouais, oh, j'ai pleuré devant. Sinon, on est entraîné, ça rend super bien. La casita sur scène est magnifique, c'est sublime. Bon, j'ai un seul bémol, c'est ces espèces... J'en ai parlé dans un épisode d'Il était un plus, mais avec Émilie, parce qu'elle l'a vu aussi, mais ils ont mis des espèces d'ânes qui dansent en tutu. T'as l'impression qu'ils sont sous LSD. C'est ridicule. Et Thibaut est passé pile à ce moment-là. Il me regarde, mais qu'est-ce que t'es en train de regarder? Je suis, non mais alors, c'est génial, mais pas ce passage. Voilà, qu'on soit clair. Non mais voilà, c'est vraiment top, c'est vraiment sympa. Et je vous le conseille.
Bah non, mais c'est sûr que je vais le regarder. Hein.
Bah oui.
Alors, pas ce soir, parce que j'ai autre chose à regarder ce soir, mais oui, très bientôt, je vais la regarder.
Bon, et je voulais juste mentionner, parce que j'en ai parlé sur le Discord, j'ai vu sur Prime Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez. C'était nul, j'ai détesté, j'ai même pas été jusqu'au bout. Et alors, pour que moi, je n'aille pas jusqu'au bout d'un film romantique en plus, c'est vraiment que, voilà, c'est... Mais... c'est une catastrophe. Franchement, déjà, pour vous raconter une scène qui résume un peu l'absurdité du film, donc il se marie, blablabla, Jennifer Lopez et... ah mince, l'ex de Fergie, là, qui jouait dans Los Angeles, la série de poker.
Je peux non, pas t'aider, bref, là.
Je sais plus son nom. C'est pas grave. De toute façon, on n'allait pas voir ce film, donc... ils vont se marier, et là, en hélicoptère, chemise ouverte, il y a son ex qui débarque. Parce qu'il est invité au mariage. C'est là. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que vous nous faites là? Bref, tout le film est ridicule et nul et pas bien joué et j'ai détesté. Voilà.
D'accord. Bon, bah, il y a plein d'autres choses à regarder, donc vous avez du choix. C'est fini pour les films, on en a déjà, on en avait quand même un certain paquet. Donc on va passer aux séries. Et en commençant par Netflix, alors il n'y a qu'une série qu'on a regardée toutes les deux. Alors c'est une série que moi j'ai rattrapée en cours de route puisque c'est la saison 2 qui est sortie récemment. Et moi du coup j'ai enchaîné la saison 1 et saison 2 sur conseil notamment de Charline. C'est Ginny et Georgia. Voilà, donc on a eu la saison 2 tout récemment. Et donc moi j'ai enchaîné les deux saisons, donc je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a la saison 1 et saison 2. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché. C'est le genre de série hein, où on enchaîne les épisodes assez, assez facilement.
Ça se binge, vois-tu bien.
Et
ça
oui, bah après, c'est bon, ça reste quand même, il y avait quand même tout un côté, plus dans la saison 1 d'ailleurs, un peu moins dans la saison 2, mais toujours encore un peu présent, de séries ado américaines qui me plaît moins, clairement. Trop d'histoires, de petites histoires de cœur qui m'intéressent pas. Par contre, j'ai vraiment adoré le personnage de Georgia, de la mère. Que je trouve incroyable parce que donc pour le pitch c'est une mère un peu spéciale qui a la trentaine hein, qui a 30 ans je crois, elle est toute jeune hein, ouais. Et elle a et toute jeune parce que c'est notre âge mais bon elle a eu une enfant, une gamine très jeune qui est déjà ado, qui a 16 ans dans ces eaux là et un petit garçon tout mignon fan d'Harry Potter, mon petit coup de cœur,
il est trop chou. Ah meuf, oh là là, il est tellement mignon Austin, mais
j'ai adoré aussi le nombre de références à Harry Potter qu'il y a dans cette série, j'avoue que ça m'a bien plu rien que pour ça. Mais du coup, voilà, c'est un peu la mère délinquante, on va dire, qui fait toujours des combines, qui change d'identité, change d'endroit, enfin bref. Et donc, derrière, voilà, une série plutôt adressée ado, qui aborde pas mal de sujets très lourds, notamment pas mal la santé mentale, très bien traitée. Il y a ce côté assez rocambolesque du personnage de Georgia, moi qui m'a vraiment beaucoup plu quoi, l'actrice je la trouve incroyable quoi, donc et puis d'alternance de moments assez fun à des moments très graves et puis des fois les deux superposés, j'ai trouvé qu'au niveau du ton c'était bien mené et assez, assez accrocheur.
Moi, j'ai eu un coup de cœur dès la saison 1, parce qu'effectivement, j'ai adoré Georgia. Et puis, moi, ce côté série pour ados, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop poussé. J'aime bien quand même quand il y a des thématiques derrière un peu plus importantes, parce que typiquement, les High School Musical, maintenant, là, je le regarde, parce que c'est un peu une Madeleine de Proust, mais je regarderai plus ce genre de truc. J'ai d'ailleurs même pas vu la nouvelle série là-dessus sur Disney+, mais... j'aime ce côté ado, mais il me faut quelque chose en plus. Et Ginny et Georgia, ça combinait bien ce que j'aimais dans la saison 1. Et je te l'avais pas recommandé parce que justement, je savais que ce côté-là était, même si on parlait de santé mentale, même si on parlait effectivement d'histoire un peu plus derrière, je trouvais que c'était pas forcément mis en avant en saison 1. En saison 2, ils ont passé vraiment un cap, c'est devenu beaucoup plus profond, ça parle de plein de thématiques diverses, c'est très inclusif aussi, cette série, pour ça, c'est vraiment un grand bravo. J'adore moi les Georgia, mais aussi les flashbacks avec la Georgia jeune.
Ah oui.
Je trouve que c'est son sosie. Enfin, vraiment, ils ont fait un travail de malade d'interprétation et tout.
Elle est incroyable, la jeune actrice aussi.
Elle est incroyable. Et du coup, c'est dans la saison 2 où je t'ai dit, ok Marjo, c'est bon, là, ça va te plaire, regarde. et ouais, ils ont passé un gap parce que c'est rare que les saisons 2 d'une série soient meilleures que la saison 1. Et là, c'est le cas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour voir comment ça va être amené tout ça et voilà, longue vie à Ginny et Georgia.
Ah oui, ça finit sur un cliffhanger comme la saison 1 d'ailleurs, donc vivement la suite. Alors j'ai vu une série qui est sortie à la toute fin de l'année dernière, The Witcher Blood Origin, donc une série spin-off de The Witcher hein, comme vous pouvez vous en douter. Alors, j'avais pas de grandes attentes, hein, j'avoue, pour ce film, pour cette série, même si j'adore The Witcher, j'adore l'univers. Mais dès qu'il y a eu les premières images de ce spin-off, j'étais genre, je sais pas. J'avais peut-être dû voir une fois la bande-annonce en mode, ouah, ça a l'air cheapos. Et j'ai quand même commencé avec mon père qui adore The Witcher, le premier épisode. Et le premier épisode, j'étais genre, mais. Genre les premières secondes, hein, premières minutes, secondes de la série, j'étais genre, mais c'est trop bien, mais j'adore, c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment de la fantasy, alors très basique entre guillemets, mais enfin, je sais pas, la musique déjà, la musique est excellente, enfin là je garde la soundtrack dans mes trucs classiques que j'écoute là en bossant, j'adore, et puis bon, il y a Jess qui est dans la première scène, donc ça suffit, il sera pas dans le reste de la saison, mais Voilà, pour vous donner envie, Jasky est dans la première scène. Voilà. Malheureusement, donc c'est une série, l'avantage qui est assez courte, hein, il n'y a que 4 épisodes, je crois.
Ah ouais, c'est pas beaucoup.
C'est une mini-série. Des épisodes relativement longs, mais que 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin, c'est assez court. Mais genre, les deux premiers m'ont beaucoup plu et les deux d'après... Enfin, en gros, la première moitié m'a beaucoup plu et la dernière partie de la saison, la deuxième partie de la saison, est nulle. Mais nulle. Ça part vraiment en cacahuète. Parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé à regarder, j'avais déjà vu qu'il y avait des retours, mais qui ont... Tu vois, tu disais les critiques abusives sur Astérix. Bah là, c'était le cas pour cette série. Il a été vraiment mais descendu, mais de manière hyper violente. Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, pourquoi les gens ils sont aussi négatifs, enfin, c'est cool, c'est pas aussi bien que The Witcher, mais c'est quand même sympa. Et ouais, non, ça part en cacahuète et j'ai vraiment pas, enfin, la fin, je riais nerveusement et j'étais genre, mais c'est, en fait, ça tourne au nanar, donc c'est pas si mal, hein, parce que
oui, c'est nanar, drôle, c'est... le nanar.
Enfin, genre visuellement, c'est ça devient très très moche, les histoires partent complètement en cacahuète. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel avec un groupe de personnages, mais qu'il n'y a pas du tout le temps de les développer parce qu'il n'y a que 4 épisodes et qu'il y a, je ne sais pas combien, un groupe de 5 ou 6 personnages et il n'y en a que 2 qui sont développés alors que les autres ont l'air d'être aussi intéressants. Donc un peu un gâchis, mais quand même de la fantaisie qui fait plaisir. J'ai quand même passé un très bon moment devant, même dans les moments nanardesques. Donc, et rien que pour la musique, je retiens. Donc voilà, The Witcher Blood Origin. À regarder si vous aimez voilà, ce genre de fantasy un peu cheapos, très basique, mais quand même sympa. Voilà.
Il y a une histoire d'amour ou pas ?
Oui, il y a une histoire d'amour, mais c'est un peu le problème que j'ai eu. Parce que, elle est très très mal amenée. Et en fait, d'un moment à l'autre, les deux personnages tombent amoureux, mais tu ne sais pas du tout pourquoi ils tombent amoureux. Et... voilà. Et après, tout est focus sur le fait qu'ils s'aiment. Et c'est très bizarre. c'est fait de manière très bizarre. Mais il y a une histoire d'amour quand même, oui.
Putain, je sais pas, ça m'intrigue. Est-ce que je regarde ou est-ce que je regarde pas?
C'est assez rapide, hein, donc tu peux
t'en. Oui, en 4 épisodes, ça va. Mais il va y avoir une suite ou pas?
Non, non, non. D'accord. En fait, ça raconte un épisode, ça raconte en fait un peu l'origine des Witchers, hein, ça se passe dans le passé du monde. Et c'est un peu la création du premier Witcher, on va dire.
Bon, je regarderai peut-être. On va voir.
Mais c'est pas au niveau de. Enfin, je préfère The Witcher, alors que The Witcher peut avoir des côtés cheap de temps en temps. Mm. Mais là, c'est quand même un autre niveau, un autre level de nanardesque.
Ok,
mais...
ok.
Mais bon, ça a son charme.
Alors, moi, j'ai vu une série que j'ai adorée et qui est terminée. Donc, si vous cherchez une série finie en 2 saisons, c'est le parfait. Il s'agit de Alice in Borderland, qui est une série tirée d'un manga. Et de ce que j'ai compris, qui est plutôt. Assez mince, comment on dit, fidèle, ouais, qui est assez fidèle au manga et qui se termine voilà, bah comme il est censé se terminer. Beaucoup la comparent à Squid Game. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait, beaucoup moins sanglant. Alors il y a quand même pas mal de sang, hein, faut pas être choqué. Enfin voilà, pour raconter un peu de quoi ça parle, c'est 4 amis qui tout d'un coup qui habitent à Tokyo, qui tout d'un coup se retrouvent téléportés dans un monde, ils ne savent pas trop où ils sont. Enfin c'est Tokyo aussi, mais Tokyo vide, Tokyo sans personne. Et en fait ils ont un genre de visa de ce monde, et quand ton visa arrive à expiration. J'arrive même pas à parler ce soir, c'est quoi ce... J'ai même pas bu. Donc quand ton visa ça arrive à expiration, tu meurs. Il y a quelque chose qui arrive du ciel et qui te tue d'un coup. Et en fait, pour pouvoir gagner des jours à ton visa, tu dois participer à des jeux. Donc c'est là un peu comme Squid Game. Et tu participes à des jeux. Tu peux mourir à ces jeux ou tu peux ne pas mourir à ces jeux. Il y en a où tu meurs, il y en a où tu meurs pas. Enfin voilà. En tout cas, c'est des jeux, je trouve, un peu plus élaborés que dans Squid Game. C'est aussi ça qui m'a plus plu. T'as des jeux un peu vraiment où il y a de la réflexion, etc. Donc ils jouent pour gagner des cartes, entre guillemets. Enfin, donc les cartes d'un jeu de cartes classique. Donc t'as les cartes de cœur, les cartes de carreau. Et en fait, les cartes de cœur, c'est un jeu où tu vas jouer avec ton cœur. Les cartes de pique, c'est un jeu sportif. Les cartes de carreau, par exemple, c'est un jeu mental. Enfin voilà, chaque carte a un type. Et plus le numéro de la carte est élevé, plus la difficulté est forte. Et donc voilà, ils vont se retrouver là-dedans, et donc les 2 saisons, on suit des personnages principaux, pas forcément tous, hein, vous l'aurez compris. Je trouvais ça vraiment très très bien fait. C'est captivant, les personnages sont super, les jeux sont intéressants à voir. Après, ouais, il y a toujours un côté un peu sanglant, mais ça va. Je trouve que c'est pas pire, effectivement, que Squid Game, où des fois, t'as l'impression que c'est vraiment tuer pour tuer. Là, c'est pas trop ça comme ça. Mais j'ai trouvé vraiment, vraiment top. Et il y a plein de références, du coup, bah, Alice au Pays des Merveilles, hein, vous en avez compris dans le titre. Donc, c'est une touche assez sympathique aussi. Voilà, je vous le conseille.
Ça m'intrigue un peu, je verrai peut-être un jour où j'aurai...
Ouais, bah dis-toi qu'elle est finie, donc tu peux la regarder n'importe quand.
Deux saisons, je pense... c'est cool.
Ouais.
Rattraper une série où il y a trop à rattraper, j'y arriverai pas, mais...
Non, là, deux et c'est terminé, donc c'est bien. Il y a une fin et la fin est sympa, quoi, c'est...
Ouais. Moi, peut-être. Je vais la mettre dans ma liste. une petite série encore, c'est une saison... A priori, pas de suite. C'est aussi une adaptation de manga. C'est Makanai dans la cuisine des Maiko. Mais alors, pas du tout la même ambiance, puisque là, c'est tout mignon, tout cosy, tout chou. C'est en fait, on suit deux jeunes filles, deux jeunes adolescentes qui rêvent de devenir Maiko. Donc, Maiko, geisha, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est un autre nom des geishas, quoi. Donc, elles veulent devenir apprenties geishas, on va dire. Et elles arrivent, du coup, à Kyoto pour leur apprentissage. Et en fait, ce qu'il y a à savoir dans la culture japonaise, c'est que c'est revenu... Donc, c'est contemporain. Et c'est revenu, en fait, un peu à la mode auprès des jeunes, cette profession de geisha. Voilà, c'est... Enfin, on a un peu un a priori peut-être sur les geishas comme tant qu'un peu prostituées de luxe, mais c'est pas ça du tout. C'est des hôtesses, mais qui représentent un peu l'idéal culturel japonais dans la danse, la musique, le chant, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est vraiment et elles ont des prestations, voilà, effectivement, pour des clients, c'est toujours que pour peu de monde, mais c'est pas aussi glauque qu'on peut l'imaginer ou que ça a pu l'être, okay. Quoi. C'est un peu plus respecté, on va dire, même si c'est un peu spécial quand même comme univers. Et donc on est un peu dans cette ambiance là et on suit ces deux jeunes filles qui sont très différentes au niveau des caractères. Et bon, je spoil le premier épisode, mais je trouve que comme le premier épisode c'est le plus dur à passer, je trouve, parce que il est un petit peu, c'est à partir du deuxième que j'ai vraiment accroché. Je me permets de spoiler le premier. En gros, il y a une des deux filles, donc elles sont meilleures amies, elles sont très très proches. D'ailleurs, c'est jamais explicite, mais moi je les vois comme amoureuses l'une de l'autre, mais c'est jamais dit. Mais il y a des petits sous-entendus parfois, donc voilà, on peut le voir comme une jolie petite histoire d'amour entre deux jeunes filles. Voilà, c'est japonais, donc c'est très prude.
Ouais, bah comme voilà. Toute histoire d'amour dans les séries asiatiques, hein.
C'est ça.
Dans Alice in Borderland, il y a une histoire d'amour, mais je crois qu'ils se touchent pas une seule fois.
Bah, il y a plein de trucs comme ça dans cette série, parce qu'il y a aussi avec des adultes où il y a un peu la mère, on va dire, de la petite communauté, parce qu'enfin ils l'appellent mère, mais tu vois, c'est un peu je sais pas comment on dit, enfin la. Oui, celle qui s'occupe de l'internat, quoi, on va dire, qui, pareil, qui a une histoire d'amour avec un... Enfin, bref, il y a plein de petites histoires, mais qui sont très mignonnes et très prudes, on va dire. Et donc, il y en a une des deux filles qui a un super potentiel, qui est complètement... Elle adore ça, elle est complètement dans le bon moule, entre guillemets. Et l'autre, pas du tout. Elle a suivi sa copine, mais ça lui convient pas du tout. Donc, en fait, elle est virée assez rapidement, mais elle devient la cuisinière de la maison, quoi, de l'internat. Et en fait, c'est assez centré sur elle, sur la cuisine et son rapport à la cuisine et le plaisir de faire plaisir par la cuisine aussi. Donc c'est un peu cette obsession japonaise aussi autour de la nourriture. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la nourriture dans ce genre de style de film. Et je crois que c'est une série de Koreeda. Oui, je crois que c'est Koreeda qui a fait cette série, et il a fait plein de films qui tourne un peu autour de ces questions aussi de communauté, famille, tout ça. C'est toujours un peu dans ce style assez très mignon, on va dire. Mmh. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça très cosy, très joli, très documentaire. C'est aussi plongé dans la culture japonaise traditionnelle, on va dire. Mais ouais, je le conseille si on aime bien ce genre de choses. C'est quand même assez particulier. Mais ouais, moi, c'était une série doudou, quoi, que je me suis regardée avec plaisir.
C'est trop marrant parce que quand tu m'as parlé de ma canaille dans la cuisine des Maiko, je m'attendais à un documentaire sur la cuisine. Je savais déjà pas que les Maiko c'était les geishas et je m'attendais donc pas du tout à ça, mais
ouais.
Ah, je suis en train actuellement de le mettre dans ma liste.
Bah, faut tenter. Moi, je dis, si on n'accroche pas au bout du deuxième, troisième épisode, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça reste dans le même idée. Mais ouais, c'est à tenter parce que moi, j'ai trouvé ça. C'est un côté presque ASMR, tu vois, dans la, dans la préparation des plats, dans, aussi quand ils se préparent, quand ils se maquillent, qu'ils mettent les vêtements. Enfin, ouais, c'est très,
ouais,
très contemplatif et très, très joli.
Ok. Eh bien, moi, j'ai vu également. Alors, vous. Personne n'est passé à côté parce que je crois qu'ils en ont fait une pub, mais alors une pub, Emily in Paris, saison 3. Moi, c'est le genre de série vraiment que je regarde, j'ai dû la binge-watcher en une journée, tu vois, la saison 3, pour te dire, parce que c'est vraiment, mais c'est chill, c'est pas prise de tête, c'est tu peux faire autre chose en même temps, mais en même temps, c'est mignon, c'est le Paris romancé, hein. Franchement, jamais de ma vie, je vois Paris comme ça, enfin, clairement, mais il y a rien qui va, surtout que dans des, à des moments, ils vont dans des quartiers que je connais, et je suis là. Vous voulez vraiment nous faire croire ça, les gars? Attends, à un moment, ils regardent... Non, mais c'est hallucinant. Ils sont au cinéma en plein air à la Villette.
D'accord.
Donc, déjà, il n'y a personne. Oui. Enfin, quasiment personne. Tu l'as... Ou bien sûr, personne se marche dessus. Tout à fait, on en reparlera. Ils en ont marre. Donc, ils vont se balader dans la Villette. Ils tombent sur une expo. Oh, ils peuvent rentrer comme ça. Et il n'y a personne dans l'expo. Bravo. Et puis, alors, attends, le pire, c'est que quand ils sont installés, qu'ils regardent leur film au cinéma à la plein air, qu'est-ce que tu vois derrière? Bah, la Tour Eiffel. Bah oui, on est à Paris, voyons. Jamais. Oh là là, enfin. Alors, oui, je veux bien que, ok, ils ont romancé le Paris, que c'est une série, que c'est fiction, machin, machin, ok, si vous voulez, mais c'est un peu too much. Donc, du coup, moi, mon côté parisienne a beaucoup de mal avec certains passages, mais à côté de ça, c'est tout mignon, c'est des histoires d'amour, de mode, de, voilà, ça me plaît. J'ai juste un gros défaut avec cette saison 3, c'est qu'il ne se passe rien quasiment de toute la saison pour te faire un cliffhanger à la fin où là il va se passer quelque chose.
Ah.
Voilà. C'était ma déception de la saison 3, alors que j'avais beaucoup aimé la 1 et la 2, mais je trouve que tu vois, contrairement à ce que je te disais tout à l'heure avec Ginny et Georgia, ça fait que baisser en fait. Je trouve que la qualité baisse, ça revient vite là, la même chose. Donc, tant pis. Il y aura une saison 4, hein, c'est sûr, puis ça marche, donc c'est, voilà. Mais je la regarderai bien évidemment le jour J de sa sortie, bien sûr. Mais c'est pas forcément la série que je recommande, quoi. De toute façon, si c'est votre style, vous l'aurez déjà vu, donc voilà. Dans un peu dans un style différent, mais pareil, si c'est votre style, vous l'aurez déjà vu. Sinon, vous aurez déjà passé. C'est la télé-réalité The Circle.
Pas du tout entendu parler, ça.
Et ben, en fait. C'est une télé-réalité que moi j'aime beaucoup. Alors, il existe version USA, version Londres et version français. J'ai regardé et version Brésil aussi. J'ai tout regardé. Moi, c'est version USA que je préfère et l'anglaise aussi, j'ai bien aimé, je crois. En fait, c'est une télé-réalité axée sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, ils sont tous dans des appartements différents, tout seuls. Et ils communiquent qu'avec un réseau social où ils ont les profils des gens et ils peuvent faire des groupes de chat, des chats, et il y a des jeux où ils vont noter des photos, où ils vont mettre des j'aime, enfin des statuts. Et en fait, ils vont apprendre à se connaître comme ça. Et donc, il y a des gens qui sont, bah, qui ils sont vraiment, vraiment en mode profil sincère, et ils parlent avec leur cœur. Et il y a des gens qui sont, bah, des catfish, donc vraiment les, par exemple.
Qui se crée un personnage.
Ouais, qui se crée un personnage, un mec qui va se faire passer pour une fille parce qu'il dit, bah, sur les réseaux sociaux, il préfère les filles, ou une fille. Tu vois, il y a par exemple une fille qui était grosse et qui disait, bah moi je sais que mon physique ça plaît pas forcément, il préfère les filles jolies sur les réseaux, donc elle se faisait passer pour une fille jolie, etc. Et c'est un moment hyper touchant d'ailleurs, parce qu'à un moment elle va révéler qui elle est et pourquoi elle a fait ça et tout. Et en fait, la version américaine et version anglaise, je l'ai trouvée hyper vraie. Je trouve que c'est très bienveillant. Les gens sont sympas, et ça change des télé-réalités quand même, où tout le monde se crie dessus, etc. C'est vraiment axé sur stratégie, sur comment on se crée un peu un réseau, sur des amitiés. Et souvent, ils parlent aussi de thèmes, enfin, ils se livrent. Et c'est comme la version américaine, surtout, est hyper inclusive. Parce que t'as vraiment tous les profils, tous les types, toutes les couleurs, tout. Et c'est hyper sympa. Et le dernier épisode est toujours très très fun. Parce que donc ils s'éliminent les uns les autres en faisant des classements de popularité. Et donc à chaque fois il y a des nouveaux joueurs qui intègrent le jeu et tout. Et à la toute fin, les derniers se retrouvent dans une pièce. Et du coup ils découvrent qui est qui. Et c'est super sympa. Et c'est vrai que les versions américaines, ils sont tous, il y a eu plein de saisons. À chaque fois, ils sont hyper copains, tous les uns les autres. Et vraiment, mais s'il y a une bienveillance dans la version américaine que j'adore. Et tous les, on voit sur Insta qu'ils se revoient régulièrement. Et il y a tous les âges, des jeunes, des vieux, des mariés, des célibataires, des gays, des hétéros. Et c'est super, super drôle. Donc, voilà. Si vous avez envie de tester une télé-réalité un peu différente parce que ce qui existe, regardez The Circle USA. C'est assez fun.
Non, c'est marrant. Je connaissais pas du tout. Donc, rien que pour la nouveauté.
Ouais, bah pareil, c'est... en faisant ton point de croix, tu vois. et c'est marrant, c'est quand tu regardes la VF, t'as la voix anglaise et t'as une voix française par-dessus. Tu sais, comme dans les vieilles trucs qui passaient à la télé, sur MTV, tout ça. Donc c'est marrant parce que t'as quand même leur voix, parce que moi je fais autre chose en même temps, généralement. Vraiment, quand je mets ça, c'est quand je cuisine, quand je suis à vélo, quand voilà. Et il y a une saison qui est sortie, là, il y a pas longtemps,
comment
c'est pour
ça
que j'en parle.
Quand t'es à vélo
J'écoute juste le son, puis j'écoute en mode podcast. Bon, tu sais, ils se racontent leur vie, je vais envoyer un message à un tel.
Ouais.
Je m'en fiche un peu de regarder.
Ça marche en audio, quoi.
Ça marche bien en audio. Ouais, il y a souvent des séries comme ça. Kaamelott. Kaamelott, ouais. En podcast, ça marche très bien.
Oui, grave.
Et du coup, souvent à vélo, je me mets un épisode comme ça aussi. Voilà. Et la dernière que j'ai vue sur Netflix, et après on va passer sur Disney+, et je te donnerai la parole entièrement, parce que je n'ai rien vu sur Disney+, en série. Enfin, si, mais non. Si, mais pas. J'ai vu des trucs, mais que les débuts, donc j'en parlerai au prochain épisode. Il s'agit de En Place, qui est une série sur Netflix.
J'ai beaucoup entendu parler.
Bah ouais, grosse promo, hein, grosse promo.
Non, mais de gens qui l'ont vu aussi, qui ont beaucoup aimé en fait.
Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est très 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 drôle. Mais vraiment, on a explosé de rire avec Tib. On les a regardés ensemble. On regarde des épisodes de 2 en 2. Il y a 6 épisodes. C'est avec Jean-Pascal Zadi, il y a Éric Judor, il y a Benoît Poulvorde, il y a Marina Foïs. Vraiment de bons acteurs. Et donc c'est Jean-Pascal Zadi qui habite en banlieue de Bobigny, qui veut devenir, enfin qui veut. Il va se retrouver à présenté à la présidentielle, et donc lui il représente un peu la cité, les banlieues, et c'est mais vraiment hyper drôle. Ça montre un peu tous les clichés effectivement qu'on a au présidentiel. Il y a les débats, enfin c'est génial, c'est à mourir de rire, et je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Bon, après il y a pas grand chose à spoiler, hein, mais j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait et très drôle.
Ouais, ça pareil, il faut que je mette dans la liste pour pas l'oublier, mais je pense que c'est la petite série, voilà, assez drôle quand t'as envie d'un truc un peu marrant.
Ouais, léger, puis ça, c'est...
Ça se regarde vite, il y a 6 épisodes.
Ça se regarde vite, c'est ça, et puis c'est en une saison, il n'y en aura pas plus, quoi.
Ah d'accord, ouais, il n'y a pas de...
Non.
Ouais.
Ok. Non, tout est fait, je pense. Enfin, je sais pas, ils n'ont pas annoncé de saison 2, et pour moi, vu comment ça se termine, c'est... Non, ça se termine saison 1, c'est parfait, quoi, je pense, hein.
C'est très bien les mini-séries, ça me plaît.
Mais oui, faites ça plus souvent, arrêtez de vouloir forcer.
D'ailleurs, donc là on va passer à Disney+. Sur Disney+, j'ai vu qu'une série en entier, qui est une mini-série d'ailleurs. Je sais plus combien d'épisodes, il faut que je vérifie. 8 peut-être. Oui, il y a 8 épisodes, tout à fait, je me souvenais bien. J'ai regardé The Bear sur Disney+, sur conseil de mon frère, qui l'avait regardé et qui avait adoré et qui arrêtait pas de nous en parler. Fun fact, il m'en a parlé quand je lui ai parlé qu'on faisait les popcorn d'or et qu'on faisait des catégories, et notamment en meilleur acteur, voilà, et tout ça. Et il dit... Ah bah, si vous aviez vu The Bear, c'est clair que vous auriez mis l'acteur principal de The Bear, meilleur acteur, sa performance est incroyable et tout. J'ai dit, ok, je vais regarder. Et effectivement, c'est assez particulier comme série, mais une fois qu'on a accroché, vraiment, je pense que c'est une série qu'on n'oublie pas, quoi, parce que Alors, pour le pitch, en fait, le pitch est assez classique au final, mais la série n'est pas du tout classique, puisque c'est un grand chef, en fait, enfin, un cuisinier qui est hyper réputé, qui est jeune, un jeune cuisinier, mais hyper réputé, qui a été élu meilleur chef des États-Unis, enfin bref, qui retourne, après la mort de son frère, qui retourne dans le boui-boui familial, en fait, à Chicago, et qui est vraiment un petit resto... enfin, qui sert des sandwichs et de la cuisine familiale, enfin vraiment le boui-boui un peu crasseux, quoi, et qui est vraiment en très mauvais état. C'est un peu la débandade. Le frère a laissé vraiment les choses dans un état pas possible. Et du coup, bah, il va essayer, voilà, de... Enfin, un peu en hommage à son frère, d'essayer de remettre la... Enfin, de se redonner, quoi, pour ce restaurant et lui redonner un peu... forme normale, on va dire. Enfin, c'est lettre de noblesse, entre guillemets, même si ça reste un restaurant populaire. Et donc voilà, le pitch est assez classique, mais dans la forme, c'est très très cru, très... je sais pas comment dire. On te prend pas par la main, quoi. On t'explique pas vraiment ce qui se passe. Tu rentres directement. C'est au fur et à mesure que tu comprends dans les discussions, etc., ce qui s'est passé avant, les histoires familiales, les relations entre les personnages.
Donc, faut suivre, quoi.
Ah ouais, faut être concentré pour cette... Enfin, concentré. C'est pas une série à regarder comme ça, en faisant autre chose, okay, quoi. Et aussi parce que ça traite pas mal de santé mentale, et notamment du héros principal, qui est pris de crise, d'angoisse, de paranoïa, enfin ouais, une espèce de paranoïa aussi, mais surtout de crise d'angoisse, en fait. Et c'est très c'est assez dur. Il y a des moments vraiment, enfin, c'est pas graphique, mais c'est la manière dont est représenté ces problèmes mentaux, enfin, du héros sont... Et puis on sent l'angoisse, en fait, on sent les moments aussi dans la cuisine où, tu sais, comme on imagine, tu sais, les cuisines où tout ça n'arrête pas dans tous les sens. Y a un truc qui va pas et ça enchaîne d'autres trucs qui vont pas, et tout d'un coup c'est la panique. Et donc il y a plein de scènes comme ça qui sont enfin, moi qui étant dans une des tendances un peu anxieuse, j'étais genre ça, je suis pas bien, quoi. Mais en même temps, c'est tellement, les personnages sont tellement attachants, alors que c'est tous des connards, hein. mais ils sont tous attachants, et du coup à la fin de la série, ça finit bien. En fait, j'avais peur que ça finisse mal. Et donc, je me suis accrochée en me disant, j'espère que ça va bien finir. Et ça finit bien. Donc, je peux le dire aussi comme motivation à la voir. Parce qu'au moment les pires de la série, on peut se dire, ça va bien finir. Et oui, ça finit bien. Donc, on peut s'accrocher en se disant que ça va bien finir. Et c'est hyper satisfaisant parce qu'on s'attache au personnage. Et effectivement, les performances d'acteurs sont incroyables. Enfin, t'as pas l'impression de voir une série, quoi. T'as l'impression de voir les gens dans la vie, quoi. Et c'est vraiment marquant pour ça.
Ok.
Et je vais pas trop parler de l'autre série que j'ai regardée sur Disney+, puisqu'on en est qu'à la moitié, et on en parlera plus tard, puisque c'est The Bad Batch saison 2. Donc on en est qu'à la moitié. Donc suite au prochain épisode pour savoir ce que j'en pense dans sa globalité.
Ouais, bah moi je t'ai dit un épisode par... ça, j'ai beaucoup de mal, donc pour l'instant j'ai pas lancé encore.
Oui, mais The Bad Batch, ça vaut le coup d'attendre, parce que il y a des épisodes qui ont peu d'intérêt. Enfin,
c'est ça, et j'ai peur de perdre l'intérêt, du coup, comme mieux... ça.
Ou alors je ferai une sélection, hein, des épisodes qui vaut le coup d'être regardés, parce que pour l'instant j'en conseillerais 3, hein, sur les 8 qui sont sortis.
Ouais, d'accord. Pour l'instant.
Enfin, qui sont vraiment, enfin non, il y en a d'autres qui sont bien, mais il y en a, enfin, si on veut pas tout regarder, on peut en... il y en a qu'on peut ne pas regarder, quoi. Sans perdre le fil de l'histoire. Donc, mais suite au prochain épisode.
Ok, ça marche. Pareil, on va juste mentionner, parce qu'on va attendre la fin, et je suis sûre qu'on pourrait faire un épisode entier.
Oui, je pense que ça vaudra le coup qu'on fera un épisode...
J'ai même l'invité parfaite pour ça.
Quelqu'un qui a joué au jeu, peut-être.
Bah oui.
Parce que nous, on n'a pas joué au jeu. Alors, de quoi, non, il parle? Une série
où il y a un jeu.
Il parle d'un jeu, mais dis donc, c'est pas comme si c'était la série dont tout le monde parle en ce moment.
Bah voilà, vous l'avez compris, c'est The Last of Us qu'on regarde toutes les deux
sur Prime,
mais du coup on en parlera bientôt, enfin bientôt, quand ce sera fini.
Oui, bon, on en est à la moitié.
Parce que bientôt, parce qu'au final, ouais, il y a 9 épisodes, on en est au...
Plus que la moitié,
5.
Hein, on a eu 5.
Ouais. Ouais. Donc dans 4 semaines, c'est fini.
Et donc on va finir par une catégorie un peu... différentes, c'est pas les nouveautés, c'est plutôt des rattrapages de films plus ou moins anciens qu'on a vus, mais donc on a envie de parler, parce que, alors j'ai profité, je savais pas comment les appeler, c'était soit le rattrapage de pain perdu pour rappeler nos popcorn d'or sur les pains perdus, ou oldies but goodies, puisque c'est voilà, des alors c'est plus ou moins ancien, hein. Ce que j'ai vu, c'est un peu plus ancien que toi, mais je voulais parler, parce qu'en fait sur Arte, là ils ont eu un petit cycle Paul Verhoeven, qui réalisateur assez culte, mais j'ai quasiment rien vu de Paul Verhoeven, et ça m'a permis de rattraper deux de ses films cultes des années 80-90, c'est Robocop et Starship Trooper. Donc en fait, c'est des films, quand on entend Robocop et Starship Trooper, je pense qu'on a une image de film bourrin, film de mec, quoi, en gros. Et certes, c'est ça, en partie, mais c'est beaucoup plus que ça. Et je savais déjà à quoi m'attendre, qu'il y avait aussi des messages politiques derrière. Et effectivement, franchement, c'est des films hyper intéressants, très, très sanglants. C'est la violence complètement débridée, un peu gore, surtout Robocop, je pense. Mais Starship Trooper aussi, quand même. Mais les deux, alors deux histoires différentes, hein, Robocop, un policier transformé en espèce de cyborg, de super policier, quoi, dans une société hyper policière. Voilà. Et Starship Trooper, c'est plus de la science-fiction sur les humains qui se défendent, slash attaquent, slash colonisent des planètes où il y a des espèces d'insectes géants qui s'appellent les parasites, et on suit les jeunes recrues dans cette armée du futur. Donc deux films très militaires, très pampants, et explosions, mais très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. Peut-être un petit fait plutôt pour Starship Trooper, qui est plus film de genre science-fiction, avec tout un univers autour, et puis des mélanges de genres très marrants entre film. Au début, c'est presque film d'ado, tu vois, où tu suis les jeunes à l'académie. Ils sont tous très beaux, très enthousiastes. Enfin, c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu à l'Ouest, rien de nouveau, même si ça n'a rien à voir. Et après, tout d'un coup, ils se retrouvent sur le terrain et c'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Et puis les messages, en fait, on se rend compte qu'ils sont dans une dictature aussi, mais de manière très décalée un peu. Enfin, ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis pas sûre qu'ils soient visibles sur arte.tv, mais bon, c'est des films assez cultes, je pense qu'ils doivent être trouvables. Donc, voilà, pour rattraper ma culture cinématographique, je me suis mis un peu à la filmo de Paul Verhoeven et j'aime bien, même si c'est un style assez particulier, j'aime bien.
Ouais, je pense pas que ce soit mon style. Ça me tente pas vraiment, je t'avouerai.
C'est assez émouvant, hein, y a des moments, surtout Robocop est plus émouvant que Starship Trooper, je trouve, mais ça m'a touché, Robocop, c'était vraiment émouvant.
D'accord, ok. Bon. Moi, celui que j'ai rattrapé, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ah, enfin.
Enfin.
Moi aussi, enfin. Je l'ai vu tard, mais je l'ai vu comme il y a quelques mois. Mais
En fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est que il était sur Netflix. Je me suis dit, ah, je le regarderai sur Netflix un jour. Et puis, il était dans ma liste. Et comme il était dans ma liste, un jour, il me prévient Netflix qu'il quitte la plateforme bientôt. Et donc, je me dis, oups, il me reste qu'un mois pour le voir. Bon, absolument, ce mois-ci, je le regarde. Je n'ai pas eu le temps. Arrivé le lendemain, je me dis, oh, ça y est, c'est dépassé, c'était hier, mince et tout, dégoûtée. Je me dis, putain, franchement, t'es lourde, Charline, tu voulais absolument le voir, qu'est-ce que t'as foutu? Et là, le jour J, je reçois une notification Disney+. Bah oui, il a quitté Netflix pour être sur Disney+. Et là, je me suis dit, c'est bon, je me fais pas avoir deux fois, même si je pense qu'il va rester sur Disney+, maintenant. Et je l'ai regardé direct, et franchement, mais un coup de cœur. J'ai adoré ce film. Effectivement, t'en parlais tout à l'heure, le graphisme, l'animation est incroyable, l'histoire est sublime, ouais. Émouvante, belle, le multivers est super bien amené, c'est vraiment hyper bien réalisé, c'est parfait. Pour moi, c'est une pépite, c'est vraiment parfait, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir le 2.
Oui. Ah ouais, moi aussi j'adorais. Moi, c'est un de mes films de super-héros préférés des dernières années, hein, c'est clair.
Ah ouais.
J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma, du coup. Donc, ouais. Le prochain, je vais pas le manquer cette fois-ci. Mais c'est très cool dans le style, dans l'histoire, dans les personnages. C'est émouvant aussi. Enfin, ouais, j'ai vraiment tout aimé aussi dans ce film.
Mm. Ah, on ira voir le 2 ensemble.
Ouais! Je sais pas quand est-ce qu'il sort le 2.
Je l'ai mis sur notre watchlist. Parce que du coup, on vous l'a dit tout à l'heure, on a fait une liste des films qu'on voit. Donc on a un petit document partagé. Ouais, je crois qu'on va voir un film ou qu'on regarde quelque chose sur Netflix ou sur autre ou une série. On se le note. Et on a fait également une liste de tous les films qu'on veut voir cette année. Qui sont avec les dates mois par mois.
31 mai. Donc c'est pas tout de suite.
Oh, il y a quand même. Ça va encore?
Oui, ça va. C'est pas trop longtemps, mais c'est avant l'été, mais c'est pas tout de suite non plus.
Non, mais je m'attendais à pire.
Oui, non, non, ça va, c'est pas la fin de l'année.
Oui, bah, y a, là, on en a parlé, il y a Ant-Man, qu'on va aller voir sûrement toutes les deux.
Ouais.
The Fabelman. Et puis après, en mars, il y a The Sun, Empire of Light, The Whale. Il y a le dernier de François Ozon aussi. Bref, il y a plein de choses. Mmh.
Tout à fait. Donc, bah, suite au prochain épisode, justement, pour voir ce qu'on aura vu et les surprises qu'on aura découvertes aussi.
Exactement, parce que là, on parlait que de cinéma. Mais il y a encore toutes les plateformes qui nous proposent plein de trucs.
Il y a The Mandalorian qui arrive bientôt.
Oui. C'est ça. Bon, bah écoutez, c'était très sympa cet épisode petit zapping. J'espère que ça vous aura plu également. On se retrouve, donc on essaye de se retrouver rapidement pour la suite ou autre chose, puisqu'on a dit qu'on ne promettait plus rien maintenant. C'est on n'annonce plus rien.
Donc à bientôt, puis bah n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord justement pour avoir des previews de nos zappings notamment, puisque c'est là que tout le monde partage le jour où on voit, voilà, ah, aujourd'hui j'ai vu ça, donc c'est the place to be pour avoir un zapping perpétuel tous les jours.
Exactement. À bientôt.
À bientôt.